Bonjour à tous. Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Alors aujourd'hui, nous allons partir en Amérique du Sud, dans l'est de l'Équateur.
Oui, dans le parc national du Yasuni, une réserve mondiale de biosphère sous laquelle il y a du pétrole. Rafael Correa, le président équatorien, accepte de ne pas exploiter ce gisement pour préserver cet environnement exceptionnel, mais il réclame des compensations.
Si la communauté internationale ne se responsabilise pas, elle aussi, nous exploiterons donc le pétrole. Ça suffit maintenant. Nous en avons assez qu'on nous dise de ne pas perforer, de ne pas couper les arbres, de maintenir la forêt, alors que les pays occidentaux ont détruit leur environnement. Ils nous disent de protéger notre environnement, alors qu'une bonne partie de notre population est pauvre. Ça suffit maintenant. L'environnement est un bien public. Toute la planète profite de l'oxygène du Yasuni. Toute la planète doit se solidariser pour cet oxygène.
L'exploitation du gisement de pétrole qui se trouve dans les sous-sols du parc Yasuni pourrait rapporter près de 6 milliards d'euros à l'État équatorien. Rafael Correa, le président, est prêt à ne pas exploiter ce gisement pour préserver cette zone d'un million d'hectares qui abrite, selon les scientifiques, la plus grande biodiversité de la planète. Mais il réclame des compensations financières que l'Allemagne, l'Espagne ou la Norvège seraient prêts à payer en utilisant une nouvelle forme de marché carbone. Investir pour préserver un espace au lieu de l'exploiter. Une nouvelle donne environnementale internationale que nous découvrirons tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission avec un reportage d'Éric Sanson.
Et s'agissant de l'Afrique, nous disons que la relance de la croissance risque d'entraîner une plus grande demande de ressources naturelles.
Mais tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité environnementale avec vous. Mélanie Bayot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure agronome et auditrice de Rainforest Alliance en Côte d'Ivoire. Rainforest Alliance, c'est une ONG américaine qui intervient où et avec quelle philosophie ?
C'est une ONG américaine, en fait, qui intervient dans le développement durable un peu partout dans le monde, notamment dans les pays en voie de développement, pour la protection de l'environnement, pour la protection de la biodiversité, pour vraiment protéger les écosystèmes. Donc c'est une ONG américaine.
Une ONG qui existe depuis longtemps ?
Elle existe depuis 1987.
Pour commencer ce tour de l'actualité, il y a Arnaud, les négociations qui continuent de par le monde pour parvenir à un accord pour lutter contre le réchauffement climatique à la conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroulera au mois de décembre à Copenhague.
Oui, l'un des enjeux, c'est l'aide financière que les pays industrialisés seront prêts à donner aux pays du Sud et notamment à l'Afrique. Hier, les responsables de l'Union européenne et de l'Union africaine se sont réunis hier à Addis Abeba, au siège de l'organisation, et au menu des discussions, la paix, la sécurité et le climat. En croire le commissaire européen chargé du développement et des affaires humanitaires, Karel de Gucht, l'Union européenne et l'Afrique sont d'accord pour prendre chacune leur part de responsabilité. Et l'Europe est prête à payer un montant qui reste à déterminer précisément. Mais elle est pourtant, pour l'instant, toute seule à s'engager dans ce processus. Vous suivez un petit peu ces discussions, ces négociations autour de Copenhague et du climat?
Oui. Alors, attendez, d'abord, je vous propose d'écouter justement Karel de Gucht, interviewé par Virginie Gomez.
Il y a donc une entente entre l'Europe et l'Afrique en ce qui concerne les négociations à Copenhague. Seule l'Union européenne a déjà mis une proposition sur table, c'est-à-dire que nous sommes d'accord de prendre à notre charge notre partie raisonnable de ce qui s'est passé et des problèmes auxquels nous sommes confrontés. En ce qui concerne maintenant les montants, le raisonnement a été le suivant. À partir de 2020, il faudra 100 milliards d'euros par an pour le climate change. Nous avons estimé que l'apport des États, des instances publiques, devrait se situer autour des 20 milliards d'euros sur base annuelle. Donc là, on peut avoir deux raisonnements. L'Europe est responsable pour 10% des émissions. Donc 10% de 20 milliards d'euros, ça fait deux. On peut aussi raisonner que la production industrielle l'Europe est beaucoup plus grande et là, on arriverait finalement à 15 milliards. Donc, c'est pourquoi ça peut osciller entre 2 et 15, mais ça dépendra de la négociation. Mais je dois constater qu'en ce moment, nous sommes probablement aussi la seule région qui est vraiment préparée pour la négociation.
Donc, Mélanie Bayot, est-ce que vous pensez que l'adaptation de l'Afrique au réchauffement climatique passe par un financement des pays du Nord?
Oui, je pense que c'est important. Et pour la première fois quand même en Afrique, on a une position commune, notamment la réunion au Burkina Faso. Et donc l'Afrique prend vraiment conscience des problèmes climatiques. Mais l'Afrique n'a pas les moyens en fait de faire vraiment face. Et donc on a vraiment besoin de cette compensation, de cette aide des pays du Nord.
Après, la grande crainte, évidemment, c'est que ce soit un peu comme l'aide au développement, c'est-à-dire que ça n'arrive pas jusqu'au bout de la chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais bon, je pense que il y a des actions, on peut essayer de canaliser en fait tout ça. Mmh. C'est la préparation de tout ça pour que cette aide-là, effectivement, serve à l'objectif fixé. Et ça peut se faire. Voilà, c'est possible de préparer effectivement cela. C'est possible aussi de faire en sorte qu'effectivement cette aide arrive à l'objectif fixé.
Oui, voilà. Cette question climatique, il y a une vraie résonance actuellement en Afrique. Enfin, on nous l'a vu à Ouagadougou, qu'il y a une position commune, ce qui est tout à fait intéressant. Mais il y a vraiment aujourd'hui une vraie inquiétude par rapport à ce réchauffement.
Oui, il y a vraiment pendant longtemps, on n'a pas vraiment pris en considération ces aspects parce qu'on a toujours pensé que c'était un peu loin de nous, qu'on ne s'est pas vraiment senti concerné. Et là, maintenant, il y a une prise de conscience générale. Et ça, vraiment, c'est le bon point. Et il y a surtout une position commune, hein, l'envie de tous les pays africains de parler de la même voix. Et c'est déjà un bon début.
À la veille de la Journée mondiale de l'alimentation, les chiffres sur la faim dans le monde font frémir. Vous les avez peut-être entendus ou lus ce matin. Plus d'un milliard d'hommes, de femmes et surtout d'enfants souffrent de malnutrition, soit un humain sur six. La faim tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Pourtant, Mélanie Maillot, on sait que la planète a assez de ressources pour nourrir tout le monde. C'est une question de répartition, d'organisation.
Oui, c'est vraiment paradoxal. C'est aussi calamiteux. Il y a des ressources, mais elles ne sont pas exploitées suffisamment, peut-être mal exploitées. Et il y a vraiment le problème de famine qui se pose. Il y a vraiment une urgence. Il y a quelque chose à faire. Il y a des réflexions à mener pour que vraiment on puisse trouver des solutions à ce problème qui est vraiment une catastrophe pour l'Afrique.
Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain par rapport à ces problèmes de malnutrition?
Sur le terrain, sûrement que le potentiel qu'on a pour produire de la nourriture, le potentiel n'est pas suffisamment exploité. Donc peut-être il faut aider à la base les gens à produire les nourritures. Il faut vraiment assister ceux qui sont sur place pour essayer de s'approvisionner eux-mêmes. Plutôt que de faire venir, par exemple, l'aide de l'Europe, c'est important d'assister ceux qui sont là, de leur donner la technologie, de leur donner en fait les moyens de pouvoir s'auto-suffire.
Vous avez vu une évolution à travers le temps de ces questions?
Pas vraiment. Pas vraiment. On en parle, mais sur le terrain, on n'a pas vraiment décelé cet impact qu'on attend. Voilà.
Pas du vent. Anne-Cécile Bras, Arnaud Jouve.
C'est pas du vent, votre magazine de l'environnement sur RFI. Et maintenant, c'est l'heure de notre zoom sur l'actualité d'un continent. Aujourd'hui, nous partons en Asie.
Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour.
Alors on commence avec la mobilisation asiatique contre les tsunamis.
Oui, 18 pays Arnaud, 18 pays contre les tsunamis. C'était hier mercredi, un exercice placé sous l'égide des Nations Unies dans le cadre de la journée internationale de prévention des catastrophes naturelles. Ça existe, hein, ces journées. L'objectif c'était de simuler un tsunami, le même que celui de décembre 2004 qui avait fait 200 000 morts.
Vague de l'océan Indien 2009, c'est donc le nom de cet exercice qui évidemment a commencé par une alerte.
Oui, lancé par le centre de Hawaï, d'abord une alerte au séisme, puis au tsunami. Objectif, tester le niveau de préparation des pays d'Asie, du Pacifique, du Moyen-Orient, mais aussi d'Afrique. Les communications, les équipes de secours et aussi les réactions des populations. C'est d'ailleurs peut-être le plus important ici, rappeler la nécessité d'informer et surtout de préparer ces populations des zones côtières. À Aceh, par exemple, les écoliers de la province indonésienne ont dû quitter le littoral pour les besoins de l'exercice. Pas facile. Les sirènes, la foule, tout ça a créé un peu de panique quand même chez certains. Encore sous le choc de 2004, au total, l'exercice a duré 12 heures, donc le temps d'aller des côtes indonésiennes jusqu'aux côtes sud-africaines.
Alors, les catastrophes...
Je pense que c'est très important, cette préparation, parce qu'on est encore sous le traumatisme de ce qui s'est passé en 2004, où il y a eu vraiment beaucoup de morts. Le fait de préparer la population à un éventuel fléau permet en fait de lutter, d'anticiper sur la solution, et c'est une bonne chose.
Alors toutes ces catastrophes naturelles, toutes ces questions d'environnement, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui sur le continent, et comme en Occident, ça donne même des films, Stéphane.
Oui, ça donne des films. Vous entendez derrière moi la bande-annonce d'une méga production sud-coréenne, ça s'appelle Haeundae. Le film fait l'affiche en ce moment, hein. J'en reviens du festival de Busan, après Sinking of Japan, le Japon sous les eaux, hein, en français. Ce film à grand spectacle, donc sud-coréen, 13 millions de dollars tout de même, devrait faire un plof. Eh bien, il fait un tabac là-bas, en Corée du Sud. L'histoire d'une vague géante, un tsunami qui submerge Busan, c'est donc la deuxième ville de Corée du Sud, avec un message politique, hein. C'est pas toujours le cas dans ce genre de film. On oublie un peu là-bas que le dernier typhon remonte à 2003. Et qu'à cela ne tienne, les promoteurs, hein, l'appât du gain, ont construit de gigantesques immeubles qui ont poussé un peu comme la varicelle là-bas, près de la grande plage de Haeundae, donc à peine 5 mètres du rivage. Hein, on a des bâtiments immenses. Inutile de vous dire que dans ce film, eh bien, tous ces bâtiments s'effondrent, hein, ils sont emportés par les eaux.
Ce n'est pas la terre qui tremble, ce ne sont pas les tsunamis, mais le réchauffement climatique qui, lui aussi, continue à faire couler de l'encre.
Oui, d'abord avec ce sondage dans la presse australienne. Selon l'Institut Lowy, la question du réchauffement n'est plus qu'à la quatrième place des principales angoisses des Australiens. En 2007, c'était l'inquiétude numéro un des Australiens avec la peur de perdre son emploi. Et puis, aux Philippines, hier, Gloria Arroyo a tapé du poing sur la table. Nous ne sommes pas les responsables du changement climatique, nous en sommes les principales victimes. Le chef de l'État, Mani, réclame des aides pour son pays après les inondations qui ont donc frappé le pays.
Alors, et pour finir, Stéphane, une bonne nouvelle pour les Dongriacondes, dont on a parlé beaucoup ici. Cette tribu de l'État de l'Orissa en Inde a finalement eu gain de cause en justice.
Oui, je peux vous dire que Georges Abou avait le sourire, hein, cette semaine quand il a appris la nouvelle.
Oui, c'est lui qui a soutenu ce dossier sur RFI.
Voilà, Georges Abou Deskazi, c'était un peu le combat de David contre Goliath, cette histoire. Hein. C'est un combat gagné, puisque cette semaine, une cour britannique a jugé que les projets de la compagnie Vendetta Resources n'avaient pas respecté les droits des Dongriacondes. Donc c'est une tribu de l'Orissa en Inde. La compagnie minière voulait exploiter la bauxite sur le territoire de la tribu. Évidemment, ça a des conséquences pour l'écosystème et même pour l'existence. Hein, des modes de vie de la tribu.
Merci Stéphane Lagarde.
C'est pas du vent @rfi.fr.
Alors Mélanie Bayot, vous êtes ingénieure agronome et formatrice de Rainforest Alliance auprès des agriculteurs de Côte d'Ivoire. Expliquez-nous en quoi consiste le système de certification agricole que votre ONG propose aux agriculteurs.
Rainforest Alliance, comme je le disais, c'est une ONG qui est engagée dans la certification, dans le développement durable, et dont le but premier est la préservation de l'environnement, de la biodiversité et des forêts tropicales. Et donc, Rainforest Alliance a élaboré des critères, des principes à respecter pour s'inscrire en fait dans la durabilité. Et c'est en cela que consiste le programme de certification. Et les coopératives ou bien les groupements qui sont candidates à la certification Rainforest Alliance doivent se conformer aux principes pour obtenir la certification.
Vous certifiez quel type de produits ?
En Côte d'Ivoire, pour l'instant, c'est le cacao, mais le domaine d'action de Rainforest Alliance est beaucoup plus étendu.
Oui, vous intervenez dans différentes parties du monde, sur différentes denrées.
Oui, sur différentes denrées, ce n'est pas seulement le cacao, la banane, les fruits, différentes denrées. Et les forêts aussi, ça a commencé par les forêts.
Et sur quelle base, justement, définissez-vous les critères qui permettent d'obtenir ce label ?
Sur la base, sur le trépied en fait de la durabilité, sur l'environnement, sur le social, sur l'économie. Donc ces critères ont été écrits, ont été rédigés.
Mais concrètement, donnez-nous des exemples.
Expliquez-nous
concrets.
Comment ça se passe. Un paysan, moi demain, je suis paysan, j'ai envie de produire conformément à vos instructions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que vous m'apportez? Quel est l'avantage?
Au niveau, par exemple, de l'environnement, je suis planteur et je suis candidat à la certification. Donc là, par exemple, je vais m'engager à ne plus exploiter des forêts vierges. Par exemple, pour l'extension des superficies, je ne vais plus abattre les arbres pour créer une plantation. Je vais m'engager à planter des arbres dans ma forêt, c'est-à-dire à créer de l'ombrage dans ma forêt, à recréer un peu la forêt dans ma plantation. Je vais m'engager à respecter les écosystèmes. Et quand je dis écosystème, c'est les ressources hydriques, c'est aussi même la faune. Et ça, c'est au point de vue de l'environnement. Du point de vue social, je vais m'engager à respecter en fait les lois sociales. Par exemple, les contrats, c'est-à-dire les rapports que j'ai avec mes travailleurs, il faut que ces rapports-là respectent la législation nationale. je vais m'engager à avoir, par exemple, de bonnes relations avec ma communauté. Donc voilà un peu l'engagement que le producteur doit prendre. Et ce n'est pas seulement un engagement, c'est vraiment des actions pratiques qu'on doit pouvoir constater au niveau de la plantation et au niveau de l'endroit où le producteur vit.
Mais alors, quel est l'intérêt pour le paysan? Parce que le paysan, finalement, ça va lui faire beaucoup plus de travail. Il va devoir s'occuper de la forêt, il va devoir faire quand même beaucoup de choses en plus. Donc, quel est son intérêt? Pourquoi il accepte ça?
Par exemple, au niveau, je n'ai pas parlé de la gestion même de la plantation. Il y a un appui qui est apporté au producteur pour améliorer, par exemple, sa productivité. Un producteur qui a 400 kilos hectares, l'assistance qu'on va lui apporter va lui permettre de passer de 400 peut-être à 600, 700. Donc, il améliore son revenu. Et il y a aussi la prime. Pour chaque kilo de cacao certifié vendu, le producteur reçoit une prime pour améliorer ses revenus.
Qui finance cette prime?
C'est l'acheteur final, ce sont les consommateurs, les chocolatiers qui acceptent de verser une prime au producteur pour les efforts qui sont faits pour la durabilité.
D'accord. Donc, en fait, le paysan, il va accepter ce système parce que finalement, il touche une prime. C'est quand même, je crois, un argument important. Et puis, pour vous, ben, il va améliorer l'environnement dans lequel il est. Mais ces critères, qu'est-ce qui les définit? Par exemple, vous n'êtes pas un organisme qui fait une certification bio, par exemple. Vous autorisez l'usage de certains produits chimiques dans les plantations. Qu'est-ce qui fixe les critères de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas pour le paysan?
Je pense qu'au niveau de Rennes Forest, il y a un comité qui se réunit régulièrement pour essayer de faire évoluer les critères, pour analyser les critères, pour les adapter aux différents pays. Donc il y a un comité au niveau de Rennes Forest. Et ce comité-là travaille sur la base aussi d'une consultation publique. C'est-à-dire qu'il y a une consultation publique où le public, le grand public, les professionnels, les experts sont amenés en fait à apporter une contribution pour améliorer les critères. Et concernant les produits phytosanitaires, c'est vrai, ce n'est pas du bio, mais on encourage l'utilisation raisonnée de produits. C'est-à-dire qu'on encourage la lutte intégrée. On explique aux producteurs que la lutte contre les maladies et les ravageurs ne se fait pas forcément par les produits chimiques, mais qu'il y a d'autres types de méthodes qu'on peut utiliser, qu'on peut combiner à la lutte chimique pour réduire un peu l'utilisation, la quantité de produits utilisés dans les plantations.
Combien d'agriculteurs en Côte d'Ivoire travaillent aujourd'hui avec cette certification?
Pour Rennes Forest Alliance, nous en sommes à 3000 producteurs certifiés à ce jour.
Qui se trouvent où?
Qui se trouvent un peu partout, à l'est, au sud-ouest et à l'ouest du pays.
Alors, bon, vous travaillez beaucoup sur le cacao, hein, c'est évidemment en Côte d'Ivoire. Les plantations sont anciennes, malades, il y a beaucoup de problèmes sur la filière, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui préfèrent se lancer aujourd'hui dans l'EVA. Enfin, on voit beaucoup de difficultés. La Côte d'Ivoire est un grand pays producteur de cacao. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que vous allez réussir à sauver cette filière cacao de Côte d'Ivoire avec votre...
C'est ce qu'on espère. On espère, ce qu'on espère, c'est de pouvoir vraiment créer un intérêt au niveau de la cacao culture pour maintenir ceux qui en ont fait un métier, pour ne pas que ces derniers se découragent, comme effectivement nous avons quand même ce phénomène-là de plus en plus, qui n'est pas très, très à une grande échelle, mais qui est quand même inquiétant. Tu vois, certains planteurs de cacaoyers qui abattent leurs cacaoyers pour les remplacer par de l'EVA. Donc il faut pouvoir en fait créer cette émulation-là, motiver les producteurs pour qu'ils reste à la culture du cacao. Et la certification apparaît comme une alternative pour cela.
Merci Mélanie Bayot d'être passée dans C'est pas du vent. Votre magazine de l'environnement continue juste après un bref rappel de l'actualité.
Nous irons en Équateur avec un reportage d'Éric Sanson. À tout de suite.